VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Conakry, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Libye, les forces pro-gouvernementales progressent dans le centre de la ville de Sirte, principal fief de l'État islamique dans le pays. Les attaquants resserrent encore davantage l'étau autour des djihadistes qui ont été la cible de frappes aériennes américaines lundi, Jacques Aristide.
Premières frappes américaines qui ont permis d'infliger de lourdes pertes aux djihadistes à Sirte, d'après Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement libyen, aussi connu comme le GNA. Washington a confirmé ces bombardements, le porte-parole du Pentagone, Peter Cook, indiquant qu'il s'agissait de frappes précises contre des cibles du groupe État islamique et qu'elles allaient se poursuivre. Un responsable de la Maison-Blanche a expliqué pour sa part que le président Barack Obama avait autorisé les forces armées américaines à effectuer des frappes en appui aux forces du gouvernement d'Union à la demande du Premier ministre libyen. Mais pour M. Sarraj, ces frappes interviennent dans un cadre limité dans le temps et elles ne dépasseront pas Sirte et sa banlieue. Les forces pro-GNA tentent de reprendre la totalité de la ville de Sirte, dans laquelle elles sont entrées le 9 juin et où elles assiègent depuis les djihadistes. Elles sont ralenties par la forte résistance des djihadistes qui mènent à des contre-attaques, notamment en perpétrant des attentats suicides à la voiture piégée.
En RDC, les FARDC, les forces gouvernementales congolaises, disent avoir neutralisé 654 éléments FDLR ainsi que 1046 combattants de groupes armés locaux dans l'est du pays. Selon les responsables de la 34e région militaire au Nord Kivu, ce bilan est obtenu dans le respect du droit humanitaire depuis le lancement il y a 15 mois de la traque des groupes rebelles dans la région. L'armée congolaise affirme avoir réduit la capacité de nuisance de ses ennemis, nous dit de Goma, capitale du Nord Kivu, notre correspondant Charlie Kasereka.
L'armée congolaise se félicite du travail accompli, reconnaissant tout de même que beaucoup reste à faire, surtout dans la traque de certains groupes armés qui sont confondus aux populations civiles dans certaines zones. L'officier Guillaume Njike, porte-parole de l'opération Sokola D, chargé de traquer les FDLR et les groupes armés locaux.
De 2015 à nos jours, le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 a déjà neutralisé plus de 654 FDLR, 191 rendus à la MONUSCO suite à la pression, bien sûr, plus de 1040. 46 combattants des groupes armés locaux ont été aussi neutralisés. L'ennemi nous impose une guerre non classique en se confondant à la population. À cet effet, les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent professionnelles et respectueuses du droit international humanitaire.
L'Est de la RDC compte plus de 30 groupes armés qui combattent l'armée loyaliste et commettent des crimes, parmi lesquels les FDLR, une rébellion rwandaise. L'armée congolaise a lancé depuis l'année passée une vaste opération dénommée Sokola D pour traquer ses FDLR ainsi que d'autres groupes armés locaux. De Goma, Charlie Kasereka pour VOA Afrique.
En Afrique du Sud, les Sud-Africains votent demain aux élections municipales. Le scrutin s'annonce ardu pour le parti au pouvoir, affaibli par un contexte économique difficile et les scandales qui affectent le président Jacob Zuma. Nani Talani fait le point.
Quelques 26 millions de Sud-Africains sont appelés aux urnes demain mercredi pour renouveler les maires et conseils des 278 municipalités. Le Congrès national africain, le parti au pouvoir, a facilement remporté toutes les élections locales et nationales depuis la fin de l'apartheid en 1994. Mais demain, l'ANC, qui contrôle une large majorité des municipalités, abordera ce scrutin dans une position plus précaire. La situation économique critique du pays, le chômage élevé, les démêlés du président Zuma avec la justice ne jouent pas en sa faveur. De plus, toujours privés des services publics de base comme l'eau ou l'électricité, les populations les plus démunies sont mécontentes et estiment qu'il y a eu peu de progrès. L'opposition au sein de l'Alliance démocratique veut remettre en cause cette mainmise de l'ANC. L'Alliance contrôle déjà la ville du Cap et espère gagner à Johannesburg, Pretoria et Port-Elizabeth.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Nigeria, l'armée nigériane a déclaré aujourd'hui avoir déjoué un projet d'attaque de Boko Haram près de Maïdougouri, capitale de l'État de Borno et berceau du groupe islamiste dans le nord-est du pays. 5 insurgés ont été tués. Rappelons que l'insurrection du groupe islamiste a fait quelque 20 000 morts et 2 600 000 déplacés depuis 2009. Dans le cadre de la série de VOA Afrique sur les membres des familles présidentielles en Afrique, la Guinée maintenant. La Guinée, où malgré l'interdiction faite aux membres de sa famille de se mêler de la gestion des affaires publiques, le président Alpha Condé fait face aux accusations de corruption contre son fils, qui se trouve être l'un de ses conseillers. Le chef de l'État a demandé que la lumière soit faite sur ces allégations. De Conakry, notre correspondant Zakaria Camara a recueilli des réactions de la population.
Vrai qu'il est mêlé à toutes les affaires minières ici.
Bon, moi je ne saurais le dire exactement, puisque je n'ai pas d'informations par rapport à ça.
Bien sûr, ils sont impliqués, beaucoup même, surtout son fils.
Son fils est impliqué dans le secteur minier, voilà, et largement même. Ça, c'est reconnu de tous.
Ce que je cherche, la famille n'est pas impliquée de près ou de loin dans la gestion du pays. Sa femme n'est ni ministre, son enfant n'est pas ministre. Il ne gère pas une association ou bien une entité gouvernementale.
Ils ne sont pas nombreux à se réclamer de la famille du président Condé. Ils sont presque absents de la scène politique en Guinée. Au RPG Arc-en-Ciel, on rejette toute accusation contre la famille du président. Souleymane Keïta, responsable des jeunes du parti et conseiller à la présidence de la République.
Vous voyez, le gouvernement, il n'y en a nulle part. Le président est un rassembleur. Il fait la différence entre la gestion de l'État et de ce qui n'est pas État. Donc, ce plan ne se pose pas.
Si le sujet est tabou à la mouvance présidentielle, le député Jean-Marc Téliano, ancien ministre de l'Agriculture, n'y va pas dans la langue de bois.
Quand vous parlez de sable mining, son fils est l'instigateur principal. Vous savez, on a toujours parlé d'audit. C'est Alpha Condé qui est monté sur ses chevaux pour parler d'audit. Mais aujourd'hui, il ne peut plus parler d'audit.
Le 11 mai dernier, le président Condé avait annoncé que la justice guinéenne allait faire la lumière sur les conditions dans lesquelles le Britannique Sable Mining a acquis ses concessions minières en Guinée. Une réaction aux accusations de corruption révélées dans un rapport de Global Witness. Des révélations qui ont fait réagir les députés de l'opposition.
Nous avions demandé des enquêtes parlementaires, surtout concernant Sable Mining, et vu l'implication de Bouba Sampil et Mohamed Alpha Condé, mais toujours, nous n'avions pas eu d'issue favorable.
Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Campagne présidentielle aux États-Unis, le candidat républicain Donald Trump fait actuellement l'objet de sévères critiques de tous bords, après s'en être pris à la famille d'un soldat musulman américain mort au combat en Irak. Un faux pas qui pourrait s'avérer coûteux politiquement, Morgane Guiriec.
Barack Obama, le commandant en chef de l'armée américaine, a dit hier depuis Atlanta en avoir assez que certains dénigrent l'armée et les troupes américaines. Il est temps pour Donald Trump de donner l'exemple à notre pays et au Parti républicain, s'est indigné le sénateur John McCain, un ancien de la guerre du Vietnam où il avait subi des années de torture. Les familles de 17 soldats tombés au champ d'honneur ont dénoncé ces propos répugnants et insultants. Brian Duffy, président de l'Association des anciens combattants, a taclé M. Trump, affirmant que quand on touche à certains sujets sacro-saints, il n'y a aucun talent rhétorique qui puisse réparer les dégâts. Le père du capitaine Humayun Khan, un soldat musulman américain mort en Irak en 2004 en tentant de sauver ses hommes, avait reproché à Donald Trump son projet d'interdire aux musulmans l'entrée aux États-Unis. Monsieur Trump avait répondu en insinuant que la mère du soldat avait été forcée au silence pendant la convention démocrate parce qu'elle était musulmane.
Et toujours concernant la campagne présidentielle américaine, le milliardaire américain Warren Buffett a mis hier au défi le richissime Trump de rendre publique sa situation fiscale, ce qu'il s'est refusé à faire jusqu'à présent. Le candidat républicain a justifié son refus par le fait qu'il subissait un contrôle des services fiscaux américains, l'IRS. Une piètre excuse a considéré M. Bonfait, l'un des hommes les plus riches de la planète. Et toujours aux États-Unis, un homme originaire de l'Ohio a plaidé coupable hier d'avoir planifié une attaque contre le Capitole à Washington durant le discours sur l'état de l'Union prononcé par Barack Obama en janvier 2015. Un homme inspiré par l'État islamique. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.